les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le Bœuf sur le Toit ouvrit ses portes en 1922. Très précisément, le 10 janvier d'une année qui allait être marquée, entre autres, par la marche sur Rome de Mussolini et ses chemises noires, par le début de la guerre civile en Irlande et la mort de Marcel Proust. Un demi-siècle plus tard, un documentaire en 5 épisodes de Paul Chavas racontait l'histoire du cabaret légendaire de l'entre-deux-guerres. Dans le 2e épisode, que l'on écoute maintenant, on retrouve Jean Cocteau et avec lui, on voit défiler ceux, familiers du lieu, que le poète avait entraînés vers l'établissement de Louis Moïsès. Avec quelques-uns des acteurs et témoins des Nuits Glorieuses du Bœuf, à commencer par les musiciens Georges Auric, Darius Milhaud et Jean Viennère, on se plonge dans l'ambiance musicale, poétique et intellectuelle du tout Paris des années folles qui découvrait le jazz au 28 rue Boissy d'Anglas. Le Bœuf sur le Toit, 50 ans après, 2e épisode, Le Bœuf sur le Toit, son époque, ses familiers.
Le Bœuf sur le Toit, 50 ans après. Une émission produite en 1972 par Paul Chavas et réalisée par Evelyne Frémy et Marie-Rose Derouet. Prise de son en extérieur, André Hautser. Mixage, Françoise Brochard. Deuxième partie, Le Bœuf sur le Toit. Son époque, ses familiers. Avec Pierre Bertin, Jean Viennère, Georges-Henri Rivière, Georges Auric, Darius Milhaud, Jean Cocteau, Denis Santor, François de Lyonnais, Camille Guérin.
La politique, les découvertes, les crimes ou les petits faits de tous les jours, chacun s'empresse de les oublier et de retrouver ce bœuf sur le toit. Voici deux de ses familiers, Pierre Bertin et Jean Viennère.
Quand j'ai connu ce bœuf avec toi-même, n'est-ce pas? Tu étais déjà au piano à ce moment-là et tu nous jouais des airs, des blues qui nous éblouissaient tous parce que nous n'avions jamais non plus, pas plus entendu que le jazz, nous n'avions jamais entendu ces airs d'Amérique. Est-ce que tu voudrais nous en jouer quelques-uns, cher Jean?
Je pense bien.
S'il me vient des souvenirs sur ta musique, je les égrènerai.
Le plus joli et le plus ancien que je me rappelle s'appelait Old Fashioned Love, et c'est Jean qui nous l'avait apporté, enfin sous la forme d'un disque.
Jean Cocteau.
Oui, Jean Cocteau. Et voilà la merveilleuse mélodie que c'était.
Ça avait déjà un parfum très marqué de Porgy and Bess, qui est né 30 ans plus tard. Enfin, ce sont toujours les mêmes musiques noires, les musiques des Noirs.
Spirituelles,
n'est-ce pas? Encore ce petit bar Gaïa, où petit à petit, tout Paris défila. Tu te rappelles?
Ah, je pense bien.
C'était bourré, à tel point qu'il a fallu bientôt déménager.
Après ça, alors, on a eu les premiers Gershwin.
Dans ce très beau bar, on voyait entrer Jean Cocteau, Raymond Radiguet, Georges Auric, Francis Poulenc, Germaine Taillefer, Louis Duret. On voyait entrer des membres très éminents de l'Académie française. Abel Hermant était un familier de la maison. Jacques de la Crotelle, Paul Morand et tout un lot de princesses de l'époque. La princesse de Polignac, la princesse Murat, la princesse Soutsot, tout le monde qui gravitait autour de la musique et autour de la poésie.
Georges Rivière, je crois que c'est à peu près à ce moment-là, ou dans les mois qui ont suivi, que vous êtes devenu très vite un habitué du Bœuf sur le Toit. Oui, est-ce que vous vous rappelez l'atmosphère ?
Je suis de la deuxième phase, en effet, de la phase Boissy-d'Anglas. Quand je passe dans la rue Boissy-d'Anglas, je vois à gauche, quelquefois encore, la façade du Bœuf qui existe. Et je rentre là-dedans, à nouveau, par la pensée, pour revoir à droite le double piano avec Wiener et avec Williams, et qui jouaient à la fois des œuvres de jazz interprétées à leur manière, avec les harmonies d'ailleurs toujours tumultueuses et un peu wagnériennes de notre ami Doucet, et toutes ces airs, dont, par exemple, qu'est-ce que je dirais moi, de Man I Love.
And she's sweet.
And she's sweet, she's coming down the street. Ça, c'est du Gershwin.
Black Bottom.
Celui-là, moins.
Il y a eu alors, bien entendu, Alléluia, qui reste interprété très souvent depuis.
Sing Alléluia. Et puis, il y a aussi Sometimes I Like You, Sometimes I Hate You. Il y avait les sources de jazz. Et puis, il y avait aussi les auteurs que Doucet aimait tellement, enfin Chopin, Chopinata, qui était joué par eux deux avec beaucoup d'éclat, et aussi des Wagner, enfin on interprétait des passages de Tristan, si je me rappelle.
Mais vous devriez très bien vous rappeler, car vous avez vous aussi tenu le piano.
Je dois dire que je jouais les utilités, enfin les remplacements, il m'est arrivé assez souvent en effet, quand l'un ou l'autre était absent, de jouer aussi un peu au piano, même quelquefois tout seul. Il y avait également Yvonne Georges, qui était une des chanteuses en présence là-bas. Je me rappelle avoir écrit des chansons pour elle, qu'elle interprétait au Bœuf. Et ensuite, Doucet, quand il est revenu après la guerre, quand il a repris un peu de travail avant, hélas, sa mort, qui est venue rapidement dans l'autre Bœuf, celui de la rue du Colisée, je crois,
oui.
Eh bien, m'a raconté qu'il avait joué même à Londres un des airs que j'avais composé sous son nom, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, mais en s'en excusant beaucoup, cette chanson avec des paroles de Laforgue, je crois, « Qu'allais-tu faire à la Madeleine ?» C'était une des chansons que j'avais, enfin, osé écrire à ce moment-là pour Yvonne Georges.
Madeleine, corbleu ma moitié, qu'allais-tu faire à la Madeleine? J'allais prier pour qu'un fils nous vienne, comble ma moitié. J'allais prier pour qu'un fils nous vienne.
On sortait du Bœuf assez tard déjà, enfin disons vers minuit, et on remontait vers Montmartre. Naturellement, on traversait ce fameux îlot très scintillant déjà de la gare Saint-Lazare.
On qui était-ce ?
Léon-Paul et moi, tous les deux.
Léon-Paul Fink.
Nous étions de grands ambulants, n'est-ce pas? Et nous, alors à ce moment-là, c'était les... Qu'est-ce qui arrivait? Oui, les Enfants Terribles. Et puis l'autre boîte, qui portait le nom d'une des œuvres de Jean
Cocteau. Une des œuvres de Cocteau,
toutes
également.
Les œuvres de Jean Cocteau sont devenues...
Et alors, nous arrivions comme ça à Place Pigalle. Il y avait un fameux charcutier, là, où nous prenions un petit sandwich, parce qu'il commençait à se faire tard, avec une façade peinte qu'on vient de démolir, d'ailleurs, n'est-ce pas? Et puis nous prenions les boulevards de la Chapelle, et puis nous arrivions comme ça, peu à peu, jusqu'en traversant les viaducs. La gare du Nord et de la gare de l'Est, on arrivait comme ça au rotonde de Ledoux et on remontait. Et ensuite, on suivait le canal Saint-Martin. Et là, Léon-Paul ne manquait jamais de me dire, mon père, qui avait la fabrique de faïence, de carreaux de faïence, dont on peut voir la signature encore chez Lippe. Et en effet, cette signature, on la voit toujours signée Fargue. Et on arrivait comme ça à Place de la République. Et là, c'était quand même à peu près le moment de payer le taxi, ce qui était très compliqué, très, très, très compliqué, parce que nous étions quand même pas tellement chargés de monnaie à ce moment-là.
Car le piéton de Paris allait en taxi.
Ou bien c'était la concierge de Léon-Paul qui payait le taxi à la fin, ou bien le bon docteur Bourges, chez qui on allait déjà à ce moment-là, n'est-ce pas? De sorte que ces grandes ambulations dans Paris, je m'en souviendrai toujours avec Léon-Paul, et elles avaient toujours ce fameux point de départ du bœuf.
Et les conversations, qu'est-ce qui vous préoccupait à ce moment-là, dans ces longues heures de nuit?
Bien, on évoquait déjà entre nous cette société, n'est-ce pas? Car nous avons quand même, à ce moment-là, été les témoins de l'édification d'une société, je dis d'une société qui avait une sorte de centre plus actif, plus dynamique, un véritable bouillon de culture, et dans laquelle il y avait évidemment certains agents sociaux de grande importance. Charles, bien entendu, Lenoir, Marie-Laure, Marie-Blanche.
Marie-Blanche.
Et puis de Polignac, la femme de Jean, puis Jean, bien entendu. Et puis alors, les Étienne.
Oui, c'est-à-dire les Étienne de Beaumont.
Oui, car c'était une société de prénoms et de diminutifs.
Prénoms et de diminutifs. Quand il était question de Jean, on savait bien de qui on parlait, n'est-ce pas, de Cocteau. Et puis quand on parlait de bébé, c'était notre ami Christian Vérard, etc. C'était vraiment une république des prénoms. Alors ça, c'était le milieu principal, le grand cercle, le plus intense. Il y avait toute une série de sociétés qui s'ordonnaient autour de ça.
Oui, alors je crois justement que socialement, ce qui est très intéressant,
Georges
Auric, c'est qu'il s'est passé au lendemain de la guerre de 14, un événement tout à fait important, qui était même imprévisible dans le faubourg Saint-Germain en 1913, c'est que ce qu'on appelait les gens du monde, qui jusque-là vivaient enfermés sans voir aucun artiste, un artiste arrivé absolument par accident, recevait dans cette société M. Vidor, qui était secrétaire perpétuel de l'Institut,
organiste
de Saint-Sulpice. Et on le recevait à cause de ça. Mais sans ça, jamais on ne recevait un artiste. Tandis que au lendemain de la guerre de 14, il y a eu l'apparition des gens du monde dans le milieu artiste, ou si vous préférez, l'apparition des artistes chez les gens du monde. Et ça, je crois que c'est précisément le comte Étienne de Beaumont qui est le responsable de ça, car c'est le premier qui a donné des bals, des fêtes, où on conviait Picasso ou Fargue. Ça n'aurait jamais pu se passer en 1913.
Oui, justement, je voulais dire que au moment où cette société a commencé à fréquenter les artistes, ce n'étaient pas des artistes patentés, c'était l'avant-garde.
Oui, il s'est constitué là une société composite et dynamique qui a été évidemment pour support des personnes du monde et en particulier de la grande noblesse traditionnelle, des gens riches aussi, des gens riches.
Support, il faut dire mécène en même temps.
Mécène, car ils avaient le chèque, il faut dire, extrêmement facile, n'est-ce pas, pour toutes sortes de choses. Quand il y avait une grande soirée chez les Charles Lenoir, eh bien, il y avait des créations particulières et on commandait des ballets, des musiques. Je me rappelle dans cette grande soirée à laquelle tu as assisté, à laquelle tu as participé très noblement, chez les Charles, quand on a eu à la fois ces concerts, ces ballets. Quand on a édifié cette charpente sur le jardin,
aussi
et puis quand il y a eu
maison.
Le jazz, n'est-ce pas, qui est venu aussi pour le bal, c'était vraiment des événements importants Alors, pour en finir avec la composition de cette société, donc des gens du monde, des personnes très riches, des personnes qualifiées par leur beauté, par quelquefois aussi certains travers de comportement, peu importe. Et puis alors les grands artistes, n'est-ce pas, qui venaient là et qui étaient invités, les artistes d'avant-garde qui étaient invités et qui participaient aussi activement. De sorte que cette société qu'on a qualifiée de snob, bah, peut-être qu'elle a rehaussé, donné un nouveau sens au mot de snobisme, car c'était un snobisme extrêmement constructeur, n'est-ce pas, auquel on doit beaucoup de création d'œuvres. Enfin, on ne sait pas si c'était le musicien ou si c'était l'homme du monde, ou si c'était les belles personnes qui étaient là. Il y avait une sorte de composition collective, enfin, de toutes les créations de cette société, et je crois qu'on doit lui rendre hommage. Mais ce qui est intéressant, c'est que gravitaient autour de cette société principale un certain nombre d'autres mondes qui les rencontraient parfois, mais pas toujours, n'est-ce pas. Il y avait, par exemple, Léon-Paul Fargue. Ben, moi, je le voyais au Bœuf. Je le voyais, bien entendu, chez les Étienne, au Bal, etc., dont tu viens de parler. Mais je le voyais aussi chez Vérabourg. Je le voyais, ou là où on trouvait Valérie, Langevin, Pelliot, les savants, les académiciens, les hommes politiques, les plus opposés d'ailleurs. C'était une autre société. Il y en avait un certain nombre d'autres sociétés, comme ça, celle de Jean Cassou, qui était un peu différente, avec des écrivains, avec Wormser, etc. Barbier, le peintre. Et tous ces mondes, comment dirais-je, s'enchevêtraient un peu sans jamais se mélanger. Et il y avait des personnes qui passaient de l'un à l'autre. J'étais un peu l'un d'eux par une sorte de curiosité sociale qui ne m'a jamais quitté.
Il y avait aussi le monde des ballets. Les ballets russes, les ballets suédois.
Ah, les ballets suédois, ça.
Oui, et des ballets russes aussi, puisque, évidemment, toujours Jean Cocteau avait entraîné tous ses amis. Et parmi ses amis, il y avait, pour commencer, Serge Diaghilev, pour commencer. Oui. Et puis en plus, les années passant, quelqu'un comme Liffard, mais qui avait été précédé par Myassine, tous les grands danseurs qui ont appartenu à la troupe de Diaghilev.
Et ben, les Suédois aussi, je me rappelle cette admirable œuvre de Marius Millot sur la création du monde. C'était une œuvre très remarquable.
Oui, c'était les...
C'est ça.
Et
en
puisqu'on 1923, célèbre Léger en ce moment, je trouve qu'il s'impose de commémorer cette œuvre-là qui réunissait à la fois le génie de Léger, celui de Millot, et puis ce très bel argument de
Sandra.
En feuilletant une fois chez Nadia la correspondance que Léger entretenait avec sa première femme, j'y ai trouvé une allusion de Léger à la première demande de Sandra pour cette fameuse œuvre, en disant « J'ai l'idée de faire un sujet de ballet nègre, disait-il, et je trouve que tu devrais en faire les décors et les costumes. » Et ça a été la source de cette œuvre-là. On trouve ça dans les pièces de la correspondance de Léger. Et j'ai beaucoup admiré cette œuvre-là pour ma part. Dans la partition, il y a cette superbe fugue que tu dois te rappeler.
Ah oui. Alors voilà un exemple où le jazz a influencé très heureusement un musicien. Oui. Et à mon avis, c'est probablement la meilleure œuvre inspirée, sans aucun doute, par un point de départ de jazz.
Oui, parce que ça n'a pas été, comment dirais-je, une simple reproduction rythmique avec quelques formules plus ou moins superficielles. C'était vraiment une recréation.
Il n'y a aucun doute.
La création du monde.
Thank you.
Monsieur Darius Milhaud, je pense que pour vous, dans ces années-là, une des œuvres les plus importantes a dû être cette création du monde avec la collaboration de Sandrard, de Léger, interprétée par les ballets suédois.
Oui, comme Monsieur de Marais, le directeur des ballets suédois, nous avait commandé cette œuvre, il voulait une œuvre avec Sandrard basée sur un conte de l'anthologie nègre de Sandrard. Je suis allé en Amérique à ce moment-là, j'ai beaucoup étudié dans le quartier noir tout ce qui se faisait au point de vue musical, et c'est après ça que j'ai écrit ma partition, parce que dès que j'ai découvert le jazz, mon idée était de le sortir du dancing et d'en faire une œuvre symphonique ou de musique de chambre. Et puis une fois que ça avait été fait, le jazz m'a plus du tout intéressé. Mais ce qui était merveilleux, c'était la collaboration avec Sandrard et avec Léger. Nous avions pris l'habitude, pour parler de ce projet, de dîner ensemble une fois par semaine du côté de Belleville, avec tenue obligatoire, casquette et gabardine. Et nous allions après dans les bals populaires comme ceux de la rue de Lappe, qui à ce moment-là, n'est-ce pas, avait encore gardé une espèce de pureté du folklore de Paris, c'est-à-dire l'accordéon, le piston, la clarinette, et cette expression populaire de la musique n'avait pas encore été contaminée par le jazz, ce qu'elle a été depuis.
Je voudrais que vous nous rappeliez dans quelles circonstances vous avez composé cette œuvre qui s'appelle Le bœuf sur le toit. Le nom est déjà insolite.
Écoutez, Le bœuf sur le toit, c'était le nom d'un tango brésilien. Il s'appelait en portugais O Boi no Telhado. Ce titre m'enchantait et je l'ai gardé. J'ai beaucoup travaillé le folklore du Brésil et je me suis servi d'un tas d'éléments folkloriques qui ont constitué toute ma partition. Au fond, je voulais le destiner à accompagner un film de Charlot, n'importe lequel, si ça pouvait coller. Et quand j'ai fini de composer cette œuvre, j'étais de retour à Paris. Et Cocteau m'a dit, mais c'est stupide, il faut faire un spectacle avec ça. Ça n'ira jamais avec un film de Charlot. Et il a décidé de faire un ballet ou une chose plutôt mimée. Et il a écrit le scénario sur la musique, c'est-à-dire après la musique. Après ça, on s'est dit, comment est-ce qu'on va monter ça? Alors, Cocteau, qui a toujours été un magicien, a été trouvé le comte de Beaumont, et il lui en a parlé. Il lui a apporté le plan du théâtre de la Comédie des Champs-Élysées. Le comte de Beaumont lui a dit, laissez-moi ce plan, je vais tâcher de vous trouver de l'argent en vendant les loges très chères et les fauteuils très chers. Au bout de 3 jours, il a écrit, voilà, c'est fait, tout est vendu. Mais on a décidé de faire un spectacle des 6, car avec Le bœuf sur le toit, il y avait le foxtrot d'Auric, il y avait les cocardes de Poulenc, et Satie nous a fait la grande joie d'écrire 3 petites pièces montées à cette occasion qui ont été jouées et dirigées par Goldschmann, comme le reste du programme.
Quelle a été la réaction du public à ce moment-là? C'était assez révolutionnaire.
Non, pas du tout, ils se sont amusés. Ce qui était drôle, c'est que Cocteau avait une telle peur que le théâtre soit vide qu'ils ont envoyé 800 pneumatiques avec dessus « bon pour une petite loge ». Ce qui fait qu'il y a eu une cohue épouvantable au contrôle, mais enfin on s'en est tiré. Stravinsky était là, et au fond, ça a très bien marché. Comme interprète, Cocteau a pris les Fratellini, les clowns de Medrano, qui ont joué merveilleusement de ces rôles de mime. Et ce qui était amusant, c'était les répétitions. Parce que Cocteau allait les chercher à Medrano, puis il prenait le métro, et là, les Fratellini faisaient des farces. Ils grimpaient dans le filet ou je ne sais quoi, enfin, ils s'amusaient beaucoup. Ce n'est que bien après qu'on a demandé à Cocteau la permission d'appeler un bar le Bœuf sur le Toit. Or, il n'y avait jamais eu de bar de ce nom-là avant, dans aucun pays du monde. Et naturellement, il a dit « mais oui, certainement ». Et ça a été le début de ce bar qui a commencé à la rue Boissy-d'Anglas et puis qui s'est transféré dans d'autres quartiers de Paris.
Cocarde de Francis Poulenc.
Déclat notre âge d'or, pipe, car nous j'offre à toute personne ayant des névralgies, girafe, noce, un bonjour de Gustave, Ave Maria de Gounod. Mayol, Touring Club, phonographe. Affiche crime en couleur. Piano mécanique, Nick Carter. Fraternité.
Alors avec 1924, on voit dans votre œuvre deux créations étonnantes. L'une, c'est Salade, et l'autre, Le Train Bleu.
En effet, à ce moment-là, j'ai fait deux ballets à la fois. Salade, avec des décors de Braque, et Le Train Bleu avec des décors de Laurence et des costumes de Mademoiselle Chanel. L'un était pour les ballets du Comte de Beaumont au Théâtre de la Cigale, et Le Train Bleu était pour Diaghilev, qui était une opérette dansée faite avec Cocteau. Au fond, Diaghilev n'aimait pas du tout ma musique, seulement il lui fallait un ballet rapidement fait pour lancer un nouveau danseur. Comme il sait que je travaille vite, évidemment, il m'a demandé de le faire. Et alors, pour éviter de la grande musique, comme il disait, il nous a demandé une opérette dansée. C'est pour ça que c'est une œuvre légère, tout à fait en dehors de mon œuvre habituelle.
Qu'est-ce qui reste le plus présent dans votre mémoire quand vous évoquez soit les amis, soit l'atmosphère de ces 10 années-là?
D'abord, une œuvre très importante de moi pour les ballets suédois, c'est L'Homme et son désir, que j'ai faite avec Claudel, et avait la particularité d'être faite sur 4 étages. Et après les représentations qui ont eu lieu au ballet suédois, c'est une œuvre qui a été complètement oubliée pendant 40 ans. Et maintenant, elle est sortie. Chaque fois que je vais les diriger à l'étranger, on me le demande.
Et parmi les événements grands ou petits de cette époque, ou la manière de vivre de tous les jours, qu'est-ce qui vous frappe le plus?
Vous savez, c'est surtout que ça a été une époque merveilleuse, parce que ça a été l'éclosion de la littérature avec Apollinaire, Cocteau, Reverdy, etc. Et puis alors, ça a été aussi les peintres, les cubistes, Picasso, Braque, etc. Enfin, toute cette petit riel de peintre d'une richesse extraordinaire.
Jean Cocteau.
Eh bien, le Bœuf sur le Toit est absolument inimaginable à l'heure actuelle. Ce n'était pas un bar, c'était un rendez-vous des poètes, des jolies femmes, des écrivains, des éditeurs. Il n'y a jamais eu au Bœuf sur le Toit ce qu'on appelle un orchestre. Les musiciens jouaient après leur festival, et des amis se mettaient au piano, un nègre venait là en visite et prenait la trompette, chez moi-même jouait le drum du jazz que Stravinsky avait acheté au moment où le jazz arrivait en France. Enfin, il y avait une atmosphère absolument amicale, ce n'était pas une atmosphère de commerce du tout, un climat d'amitié, un climat de gentillesse.
Denise Santor, vous êtes arrivée à Paris, vous êtes française bien sûr, mais vous avez habité New York pendant un certain temps et vous arrivez donc à Paris vers les années 1919-1920.
Alors je suis arrivée, je ne vais pas vous donner des dates très exactes, mais c'est de la biographie familiale, mais moi je suis arrivée à Paris, j'ai eu l'impression que j'étais un jardin, Paris. Je trouvais que c'était un jardin. Et on m'a montré mes oncles et mes tantes que je ne connaissais pas. Et j'ai vu des jeunes femmes que j'ai trouvées tout à fait extraordinaires.
Pourquoi ?
Elles avaient des chapeaux qui leur couvraient presque le nez, des espèces de gabardines très serrées à la taille, et puis des airs délurés, décidés. C'était la nouvelle génération, les nouvelles jeunes femmes. Alors ça, elles étaient complètement différentes de ce qui s'était passé avant. Parce que j'étais venue une fois pendant la guerre en 16. Là, j'avais vu la veuve de guerre, le poilu de Verdun et tout. Puis là, tout d'un coup, je vois d'autres jeunes filles. Et ces autres jeunes filles, ces autres jeunes gens, c'est la génération du Bœuf sur le Toit. Parce que vous savez, je suis un peu la nièce du Bœuf sur le Toit, sans en avoir l'air. Je suis la nièce de Germaine Taillefer. Alors, bon, ça a encore été le phénomène. La jeune tante qui est, enfin, comment pourrais-je vous assimiler ? Disons Françoise Sagan, mais alors compositrice, si vous voulez. C'est la jeune fille de cette époque, alors avec elle était ravissante, avec les cheveux dorés coupés très courts, les chandails, les petits cols de garçon. Et elle avait à ce moment-là l'auréole. Elle était dans ce groupe extraordinaire, dans ce groupe
d'avant-garde.
Ah, pour moi, si je voulais définir, moi j'ai la petite fille qui bave devant les grands, d'une admiration. On est dans la famille d'abord dont on a rêvé, qu'on n'a pas connue. Et pour moi, c'était les habitants d'un château de verre filé, tous ces gens-là. C'était des espèces d'anges. Je les trouvais tous très, très beaux. Et puis, je crois qu'ils ressemblaient. Je crois maintenant qu'ils ressemblaient au dessin de Jean Cocteau, tous ces gens-là, qu'ils avaient ce genre de visage. Et puis, ils étaient poétiques, ils étaient absurdes, ils étaient pas comme tout le monde. Et puis, très beaux. Je peux pas vous donner une autre idée. Pour moi, ils étaient beaux comme tout.
Vous dites « ils », c'est-à-dire les gens de votre famille et ceux que votre famille fréquentait. Qui était-ce ?
Il y avait différentes générations. Ça serait assez difficile à expliquer parce que mon père a été mêlé, n'est-ce pas, dans sa jeunesse, au groupe, avec un peu avec les anarchistes. Il s'est occupé un peu de l'histoire de l'anarchie, bien sûr. Et puis, il était dans le groupe de l'abbaye de Créteil, vous savez, Duhamel, tout ce milieu. Jules Romain, Durtin qui m'a enlevé les amygdales, je m'en perdais longtemps. Et il avait aussi comme amis tous les cubistes. Glaise, Médecingère, Delaunay.
Léger.
Oui, bien sûr, Léger. Et puis aussi, il était très lié avec Modigliani. Modigliani et Apollinaire sont venus faire du tabac le jour de ma naissance. Enfin, surtout Modigliani qui était sous de hachiche que mes grands-pères ont mis dehors avec scandale. Et Apollinaire est venu me voir, j'étais tout bébé, sont un peu mes parrains si vous voulez. Alors c'est donc ce groupe-là. Et alors quand nous sommes revenus d'Amérique, il y a un nouvel élément qui est le nouveau groupe, le groupe des six, les dadaïstes, les futuristes. Et les cubistes, ils font presque figure d'ancêtre là-dedans. Enfin, pour les bourgeois, c'est les types épouvantables dont on doit se défier.
Et en même temps, une partie de la famille était artiste, donc du côté du mauvais côté.
Ah ben, il y avait tous les côtés, puisqu'on avait l'oncle aviateur. Alors lui, le héros, l'archange, n'est-ce pas, le guide-mère de la famille. Ben, lui, alors, il a un peu penché sur le fascisme à la fin. Et puis alors, on avait l'oncle qui avait gagné de l'argent en vendant du pinard. Alors, on avait tout, quoi, si vous voulez, dans la famille. Puis mon grand-père, qui faisait de l'import-export de l'époque. Alors mon grand-père, c'est un personnage pacifiste qui a repris tout de suite les affaires avec l'Allemagne. Alors, en somme, on a eu pas mal d'Allemands à la maison tout de suite aussi. Et je vais vous raconter comment on ne fait pas l'histoire. Il s'est trouvé, alors là, c'est antérieur à l'époque dont je vous parle, il s'est trouvé qu'au cours d'un voyage en venant d'Amérique, nous avons voyagé avec une famille très extraordinaire. Je vais avoir 6 ans, 7 ans. Alors, il y avait 2 petits garçons. Et puis, il y avait le père, un personnage assez mystérieux, qu'une barbiche, un grand, des yeux bleus, et une femme incroyable que, depuis, j'ai comparée à Mme Micawber. C'était la famille Trotsky. Et alors, au départ d'Espagne, il y a eu une histoire, ma mère a caché Trotsky, enfin, on a toujours conspirateur né dans les bonnes familles de gauche, alors on a su qu'il y avait le type qui se cachait de la police, de se dépêcher, de le couvrir, de l'embrasser, d'être derrière lui, pas qu'on le voit. Alors ça nous a fait des relations, on ne savait pas du tout ce qui étaient ces gens-là. Et alors, pendant la traversée, moi, j'ai fait grande amitié avec les enfants Trotsky, Léon et Serge. Ils m'ont prêté serment sur un bœuf égorgé de ne jamais manger de viande. Bon, ils s'apprêtaient à mettre la Russie à feu et à sang, mais il fallait pas manger de viande parce que c'était sanguinaire. Et Madame Trotsky pleurnichait sur une chaise longue tout le temps et Trotsky jouait aux échecs avec mon père. Et ils parlaient allemand tous les deux parce que Trotsky parlait assez bien français, mais il parlait allemand aussi. Et alors, il annonçait à mon père tout ce qu'il allait faire. Et mon père disait, c'est encore un de ces Russes qui palabre dans les bistrots. Il ne comprend pas du tout la mentalité allemande. Il se figure que les Allemands vont les aider, mais il ne les connaît pas aussi bien que moi, ces imbéciles à monocle et à corset. Et puis, il ne comprend pas les bourgeois, ce type. C'est un délirant merveilleux, sympathique au possible, mais enfin, ce pauvre, où va-t-il? Quand il a ouvert les journaux, puis qu'il a vu, au moment de l'appel de Brest-Litovsk, la photo de ce Trotsky, il était sidéré, mais j'aurais dû noter tout ce qu'il m'a dit. Et mon beau-père a regretté toute sa vie de ne pas avoir noté ses conversations avec Trotsky, qui faisait un document historique de premier ordre.
Oui, ça fait partie de ces événements ou de ces rencontres auxquelles on n'attache pas une très grande importance sur le moment.
Si, mais on ne s'y dit pas les gens comme ils sont. Alors, par exemple, moi j'ai vu Langevin dans cet ordre d'idées, voyez-vous. Alors là, je savais que c'était un monsieur qui disait des choses très savantes. Il avait, comme les savants de cette époque-là, un petit col à manger de la tarte et une redingote. Il nous parlait de la théorie des quantas. J'ai vu aussi le professeur Perrin. Il était dans l'autobus qui perdait ses tickets. Il était beau, il ressemblait à Socrate. Enfin.
Mais vous-même, quand vous vous êtes fixé à Paris, donc dans les années 20, qu'avez-vous fait? D'abord, vous êtes allé en classe, mais enfin, quelle était l'orientation de votre esprit? Quel était le milieu que vous fréquentiez? Qu'avez-vous vu?
Moi, j'ai voulu jouer de l'art parce que tout le monde faisait de la musique dans ma famille. Parce que vous comprenez, quand on a une tante qui se fait acclamer au ballet suédois, on est marié de la tour Eiffel, on voit sa tante qui arrive sur le plateau et tout le monde qui pousse des hurlements dans la salle, ça vous traumatise aussi ces trucs-là, vous comprenez? Et bien alors, au point de vue, j'étais plutôt littéraire, comme la suite l'a mal démontré, et je me suis intéressée alors aux discussions scientifiques et philosophiques qui avaient lieu chez moi, parce que, chose encore très curieuse, j'ai entendu parler, vraiment une des premières maisons de Paris. On a parlé du freudisme, avant que Marie Bonaparte ait commencé ses travaux. Parce que mon père avait des amis psychiatres, et on s'est trouvé très lié avec le docteur Alindy, qui m'a soigné quand j'étais petite. Oui. Et alors il s'est trouvé que mon père parlait bien allemand. Des gens un peu délirants sont venus lui dire, écoutez, voilà, on a des textes d'un docteur allemand, Sigmund Freud, qui fait énormément de bruit, vous ne pouvez pas me traduire ça.
Mais quelle a été la réaction justement des Français quand ils ont entendu ces théories qui ont bouleversé les connaissances?
La réaction, n'est-ce pas, les gens n'y ont rien compris. Vous savez, on s'est basé sur le libido, alors tout le monde rigolait sur le problème, c'est comme avec la relativité d'Einstein. Vous savez, une bonne femme disait, ma belle-sœur a un chapeau rouge, moi je le prends jaune, c'est une question de relativité. Ou alors quelqu'un disait, vous comprenez ce que c'est, ces cochons-là, ils disent que les petits garçons, les petites filles ont un libido, puis tout le monde se demandait, qu'est-ce que c'était que ce libido? Mais en réalité, ça a été scandale. Ça a été scandale. La pensée que les petits innocents C'est des types qui avaient des instincts sexuels. Mais enfin, bon, on s'y est fait parce que on se déshabillait aussi, vous savez, ma chère Paul. À ce moment-là, on a commencé à se déshabiller, il faut bien l'avouer.
Se déshabiller.
On se déshabillait bah, parce que ma mère allait à la plage avec un triple voile bleu sur la tête et un corset et des manches à gigot, et que mes tantes ont commencé à aller à la plage avec des costumes de bain où on voyait à peu près beaucoup de choses, et puis ils ont commencé à prendre des bains de soleil, puis on a commencé à mettre des robes courtes toujours au tennis, et puis on a mis des femmes à poil dans les musicals. Ce qui était tout de même nouveau, parce que avant les bonnes femmes avaient des maillots collants. Je ne sais pas si vous avez vu, elles ont l'air d'être habillées en sparadrap. Là, pas du tout, on a mis des femmes en peau. C'est, pas, c'est l'époque où Colette raconte dans l'envers du musical que quelqu'un la regarde, le metteur en scène, puis tout d'un coup, il a une inspiration, il dit « lâchez un sein ». Alors là, commencé à lâcher les seins. Ça fait grosse impression. Il y a une fameuse opérette Fifi. On montrait l'Iscocéa qui faisait voir la cuisse, qui faisait voir pas mal de choses, et puis le texte est extrêmement cochon, en fait.
Mais j'imagine que c'était aussi une petite révolution quand les tantes se coupaient les cheveux.
Oh, il y a longtemps que c'était fait, en somme, les cheveux, c'était fait assez vite. Et puis il y a une, oh, alors là, il y a une grosse controverse, c'est comme le sexe des anges. Qui a décidé de couper les cheveux le premier? Alors là, je vous dis tout de suite, il y a Miss Tinguette, ça, il n'y a pas de problème, on a des photos de Miss Tinguette pendant la guerre avec les cheveux coupés. Ben. Puis il y a eu aussi Sarah Bernard qui a joué l'aiglon, avec la perruque. Mais alors, bon, les indices que...
Chanel.
Coco Chanel, oui, bah Poiret aussi. Poiret dit, moi j'ai décidé que les femmes se couperaient les cheveux parce que c'était pas pratique. Mais j'allais tout le temps chez le coiffeur. Alors, arrive dans la vie des femmes le coiffeur, le fameux coiffeur Antoine. Ça, ça devient quelque chose de très important. C'est même plus important que l'ondulation Marcel, voyez-vous, avec les petites épingles. Parce qu'on a coupé les cheveux. Alors, moi j'ai été à l'époque garçonne. J'ai coupé les cheveux à la garçonne. Mon grand-père me disait tous les matins que j'avais une nuque de petit boucher. C'était la même révolte qu'aujourd'hui, les garçons avec les grands cheveux.
L'autre jour, ma femme me dit, vois-tu, mon chéri, j'ai fait pour te plaire quelque chose de bien gentil. J'ai fait ce que font toutes les femmes en ce moment, pour être tout à fait dans le mouvement. Elle enleva gentiment son chapeau, et stupéfait, je m'aperçus tout aussitôt, elle s'était fait couper les cheveux, comme une petite fille gentille. Elle s'était fait couper les cheveux en se disant ça m'ira beaucoup mieux, car les femmes tout comme les messieurs, parce que c'est la mode, commande, elles se font toutes couper les cheveux. Furieux de ce pas, je vais trouver ma belle maman, une dame qui se promène entre 16 et 40 ans. Ma belle-mère, en me voyant, me dit de l'air doux, regardez ce que j'ai fait pour vous. Elle enleva gentiment son chapeau, et stupéfait, je m'aperçus tout aussitôt. Tout comme les messieurs, parce que c'est la mode, commande, elles se font toutes couper les cheveux.
Prix Nobel de physique 1920, Charles-Édouard Guillaume pour sa découverte de l'invar. 1921, Einstein pour la théorie du proton, travaux entrepris dès 1905. 1922, Bohr pour la théorie de l'atome, qu'il recherchait depuis 1913. 1923, Millikan, pour avoir pesé l'électron.
Prix Nobel de chimie. 1920, William Nernst, pour ce qu'on a appelé le troisième principe de la thermodynamique. 1921, Frédéric Soddy découvre les isotopes. 1923, l'Autrichien Pregel pour la micro-analyse.
Bien évidemment, un prix Nobel est la consécration de travaux et de recherches qui se sont étendus sur un grand nombre d'années. L'œuvre que le prix signale au public n'est pas, pour ainsi dire, la dernière nouveauté en son domaine. Nous souhaiterions donc, François Le Lyonnais, que vous nous traciez une sorte de panorama de ce qu'étaient les sciences en 1921, c'est-à-dire justement au temps où l'on se pressait au bœuf sur le toit, au ballet russe ou suédois, ou au concert d'avant-garde, en physique par exemple.
Vers ces années-là, deux temples de la physique étaient construits. D'abord, les théories de la relativité, qui avaient commencé en 1905, c'est la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, et en 1916, donc il y a peu d'années, la théorie de la relativité générale. Je dis que le temple était construit. Il n'y a rien à y rajouter, si vous voulez, jusqu'à nos jours. Mais d'année en année, continuellement, il recevra des compléments extrêmement importants. L'autre grande théorie, c'était la théorie des quantas. J'ai dit que c'était aussi un temple et qu'il était construit. C'est pas tout à fait cela. En réalité, ce temple était en train de se démolir. Il traversait une crise extrêmement grave. Il a fallu attendre l'année 1924 pour qu'un jeune littéraire découvre la théorie qui allait résoudre les contradictions de la théorie des quantas. J'ai nommé Louis de Broglie, qui n'est pas seulement, comme vous le savez, un licencié d'histoire, mais aussi un prix Nobel de physique. La mécanique ondulatoire va dominer complètement toute la physique depuis cette année 1924 jusqu'au moment où je vous parle. Pour la chimie, une quantité de travaux effrayante, tous intéressants, mais très marquants. Eh bien, retenons, disons, par exemple, des gens en chimie appliquée, presque en chimie industrielle, la synthèse du pétrole, qui a été faite en 1925 par Fischer-Tropsch, par une certaine catalysation, et qui devait servir beaucoup dans la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le Troisième Reich s'est trouvé privé de pétrole venant de sources naturelles. On peut signaler aussi de Bayes, en 1923, une théorie de la dissociation des ions dans les électrolytes forts. Il serait long de m'expliquer, c'est quand même une théorie extrêmement importante et qui complétait les théories d'Arrhenius qui les précédaient. On a aussi, vers ces années-là, une théorie chimique des couleurs. C'était un grand mystère auparavant, quand on connaissait la composition d'un produit chimique, qu'on savait quels sont les éléments qui permettaient d'en établir la formule développée. Eh bien, dites quelle couleur il aura. On ne savait pas le dire. Et avec des travaux de 28, il arrive une théorie des chromophores qui nous montre que dans les molécules des corps, il y a certains groupements atomiques, électroniques, qui font précisément que la lumière, en se réfléchissant sur ces corps, nous renverra du bleu, du rouge ou toutes les couleurs que vous voudrez.
Et où en sont les connaissances de l'homme en ce qui concerne les sciences naturelles, le ciel, la terre ?
D'abord le ciel. Au fond et pendant longtemps, jusque vers le milieu ou la fin du XIXe siècle, le ciel, c'était encore celui finalement de Galilée, de Newton, c'est-à-dire le soleil et les planètes qui tournent autour. On savait bien qu'il y avait des étoiles, on en connaissait l'existence, on savait qu'elles étaient très éloignées finalement. Mais ce sont non seulement ces étoiles, mais les populations d'étoiles, les galaxies, que l'on va découvrir et étudier. En 1920, Chapley, qui est un astronome américain, montrera que notre soleil se trouve dans la voie ferrée, plus au bord de la voie ferrée que vers le centre, à environ 9000 parsecs du centre de la Voie lactée. Vers l'année 1922, Friedman, développant d'ailleurs des théories d'Einstein, Friedman était un astronome mathématicien soviétique, commence à proposer une théorie très célèbre depuis et encore maintenant, c'est la théorie de l'univers en expansion, selon laquelle les galaxies s'éloigneraient les unes les autres, l'univers grandirait continuellement dans l'espace. Cette fuite des galaxies sera confirmée en 1924 par un astronome américain, Hubble, qui montrera bien que ces galaxies ne sont pas à l'intérieur de notre voie lactée. Eh bien, rapprochons-nous, vous m'avez demandé le ciel et la Terre, rapprochons-nous de la Terre dans l'atmosphère. Au moins une grande découverte et qui va vous intéresser tout particulièrement, je crois. Appleton, en 1924, Appleton, c'était un Britannique, montrera qu'une certaine couche électrisée dans l'atmosphère, elle n'est pas très élevée, elle est à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres, une couche d'oxygène électrisé de l'atmosphère réfléchit les ondes de radio. Sans cette couche, nos auditeurs, un peu loin en tout cas, ne nous entendraient pas, parce que les ondes se perdraient dans l'espace. Encore une autre grande découverte concernant la Terre. En 1923, Weining Mennes, c'était un Hollandais, montre que la pesanteur est plus forte au-dessus des océans qu'au-dessus des continents. Et ça confirme le fait que la croûte terrestre est plus épaisse sous les continents que sous les océans. C'est une théorie très importante. On peut se rapprocher presque de la géographie. En 1924, on fonde l'Association internationale de la science du sol, qui a commencé à publier des grandes cartes du sol ensuite. Et puis, un peu après, quand même, ça se rapproche des exploits sportifs, le commandant Bird, qui collectionnait ses performances, je dois dire, survole en avion le pôle Nord en 1926 et le pôle Sud en 1929. Alors, peut-être me laissez-vous la parole pour vous parler maintenant des sciences naturelles, zoologie, botanique. Eh bien, je vais peut-être vous citer plutôt des curiosités qui surprendront peut-être quelques-uns de vos auditeurs. En 1926, un Américain, le professeur Ricks, pêche une algue sur les côtes de la Floride. Il l'a baptisée Nereocystis luetcana. Est-ce que vous imaginez la longueur de cette algue ? Eh bien, c'est une algue un peu plus longue que la tour Eiffel n'est haute. 300 et quelques mètres. Et c'est un seul être vivant, naturellement. Vous savez, les algues sont les êtres vivants, pas très compliqués, des espèces de chapelets, mais enfin, d'un bout à l'autre, c'est le même être vivant. Nous sommes dans les algues. Encore une curiosité, elle est de Hartmann en 1920. Il découvre que certaines algues ont 6 sexes. 6 sexes, c'est-à-dire des sexes que je vais appeler A, B, C, D, E, F. Alors, le sexe C, par exemple, peut avoir des enfants avec le sexe B qui le précède ou le sexe D qui le suit, et puis ainsi de suite. Mais C ne peut rien faire avec A. C'est comme ça pour les algues. Une grande découverte maintenant, et plus importante peut-être, c'est celle de Spemann en embryologie. Spemann, étudiant les batraciens, par la suite on a étendu ça à tous les êtres vivants, y compris à l'homme, découvre le deus ex machina, si je puis dire, du développement de l'embryon. Cet embryon commence à se développer et à faire des organes, des bras, des mains, des yeux, des cœurs, du sang, etc. Qu'est-ce qui fait que ce développement se fait de cette manière-là ? Eh bien, il y a une espèce de petit ingénieur qui commande ce développement avec beaucoup de précision et que l'on appelle l'organisateur. C'est une très grande découverte, celle-là. C'est aussi l'année 24 qui a vu von Frisch découvrir le langage des abeilles.
Et dans le domaine de la médecine ?
Disons qu'en 1920, on avait découvert la vitamine B12 qui guérit l'anémie pernicieuse. Mais s'il fallait que je vous dise ce qu'on a fait chaque mois, chaque année, de 1920 à 1930, nous n'en sortirions pas. Parce que les vitamines, ce sont des bulletins de victoire continuels. Les hormones également. Alors on commence par les soupçonner, les découvrir, on les isole, et puis on les fabrique artificiellement, et puis on les applique. Ce sont donc des bulletins de victoire très nombreux. En 1918, une curiosité peut-être, la première fois qu'on a exploré, en descendant des petits miroirs, l'œsophage d'un homme, c'est Kussmaul qui l'a fait, chez un avaleur de sabre. Et alors depuis, on va découvrir le cathétérisme cardiaque quelques années plus tard, c'est-à-dire la possibilité de descendre dans le cœur des petits appareils photographiques, des miroirs qui renvoient des renseignements, et on prouvera qu'on peut aller dans le cœur avec une innocuité garantie. Prenons l'année 21, quand même une très grande découverte, c'est celle de l'insuline par Banting et Best. Et puis l'allergie aux poussières des maisons. L'allergie avait été découverte début du XXe siècle. Mais on a découvert des allergies successives, à des causes successives, et les poussières de maison, ce sera Cook. Il faut absolument signaler, un peu plus tard, en 1924, les premiers électroencéphalogrammes par Hans Berger, qui se rend compte que notre cerveau à une activité électrique et qu'il n'est même pas nécessaire, heureusement, de nous trépaner pour poser des électrodes sur notre cerveau, on peut obtenir des renseignements très intéressants sur l'activité cérébrale. Tout de même, encore une grande découverte à signaler en 21, une grande invention plutôt, c'est le BCG, le bacille de Calmette-Guérin, le vaccin contre la tuberculose, dont on a longtemps discuté la valeur. Maintenant, cette valeur est complètement acquise.
C'est en 1921, en effet, que le BCG était pour la première fois inoculé à l'homme. Nous avions eu la chance de rencontrer Camille Guérin, voilà une douzaine d'années.
Les recherches, dès 1897, ont été orientées sur le bacille tuberculeux et sur les moyens de l'atténuer. Vous n'ignorez pas que nous étions, à cette époque, tous sous le coup des découvertes de M. Pasteur, qui qui était arrivé à atténuer les virus. Ce fut très long, très long. Toutes les méthodes qui avaient été imaginées par M. Pasteur ne réussissaient pas lorsqu'on s'attaquait au bacille tuberculeux. C'est un microbe particulier, extrêmement coriace. Je dis coriace parce qu'il est entouré d'une coque cirograisseuse qui le met à l'abri de toutes les interventions que l'on pourrait lui susciter. Et ce fut par hasard, en 1904 ou 5, nous avions remarqué que si l'on additionnait une culture de bacille tuberculeux avec d'une goutte de bile, on constatait que ces bacilles tuberculeux qui normalement poussent en amas, feutrés, serrés, collés les uns contre les autres, on s'apercevait que cette goutte de bile dissociait les bacilles. C'était un point très important. Cela nous permettait de faire des inoculations avec des quantités extrêmement minimes de bacilles tuberculeux, jusqu'à 5, jusqu'à 10 microbes séparés.
Et ces inoculations, à qui les faisiez-vous à ce moment-là?
À ce moment-là, c'était le cochon d'Inde, notre animal de prédilection. Puis, accessoirement, nous avions le lapin. Et puis, sur la fin, nous avons eu les singes.
Et cela vous a mené jusqu'à quelle période, vos expériences sur les animaux?
Eh bien, la période sur les animaux s'est étalée de 1908 jusqu'à 1921. Lorsque nous sommes parvenus à habituer le bacille tuberculeux à vivre en présence de bile de bœuf, nous sommes aperçus qu'il perdait de sa virulence. Et lorsque nous sommes arrivés en 1921, le bacille tuberculeux était devenu un être inoffensif. Inoffensif pour tous les animaux. Il n'était pas encore question de songer à expérimenter sur l'homme.
Mais votre première expérience sur l'homme, quelle a-t-elle été?
Eh bien, à l'Institut Pasteur, M. Calmette reçoit la visite d'un médecin des hôpitaux de Paris, nommé Veil Allais. Ce médecin venait lui dire: « Je viens de mettre au monde un enfant vivant. La mère est tuberculeuse au dernier degré, et sa mort n'est plus qu'une question de jours. Effectivement, elle est morte 2 semaines plus tard. Cet enfant doit être confié à une grand-mère qui est également vieille tousseuse et vieille tuberculeuse, de sorte que le sort de cet enfant est compromis. On peut dire que l'enfant est voué à la mort. Si l'on essayait de lui faire absorber du bacille atténué, que vous avez appelé BCG, Bacille Calmette Guérin. Monsieur Calmette hésita, il hésita. Mais finalement, il se dit, voyons, ce bacille est inoffensif pour tous les animaux, le singe y compris. Quel inconvénient y aurait-il à essayer ce bacille atténué sur un enfant? C'est entendu. « J'accepte, » dit-il. Le même jour, ce jeune enfant reçut par la bouche, par la voie buccale, 5 centigrammes de bacille BCG inoffensif. Cette même dose fut renouvelée 48 heures après, puis encore 48 heures après, en tout 3 doses. L'enfant à l'heure actuelle 28 ans. Il est aux États-Unis, il est directeur d'une entreprise industrielle, et le docteur Veillalet, qui continue à le suivre, a de temps en temps de ces très bonnes nouvelles. Voilà l'origine de la vaccination, de la première vaccination de l'enfant par le BCG. Thank you.
retour du Bœuf sur le toit, une série d'émissions de Paul Chavas, réalisée par Evelyne Frémy et Marie-Rose Derouet. Aujourd'hui, deuxième partie, le Bœuf sur le toit, son époque, ses familiers.
Cette émission a été diffusée la première fois le 18 août 1980 sur France Culture et initialement le 1er janvier 1972 dans sa version longue. À suivre. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Thank you.